Ladies and gentlemen, if you would be kind enough to take your seats.
Mesdames et messieurs, si vous prenez vos places, nous pourrons commencer notre programme.
Thank you.
Ladies and gentlemen.
Mesdames et messieurs, pourriez-vous prendre vos places pour que nous commencions le programme avec le programme de ce matin?
Please make sure all rings are turned off on your.
Assurez-vous que vos GSM sont fermés, s'il vous plaît. Donc vos portables, vos cellulaires ou GSM.
Ladies and gentlemen, please welcome.
Bienvenue, mesdames et messieurs. Nous souhaitons la bienvenue au président et directeur général et chef exécutif de l'ICANN, Rod Bergstrom. Merci, merci infiniment. Bienvenue à la 38e conférence d'ICANN. Je souhaite la bienvenue à nos invités, bienvenue au cœur de l'Europe. Grâce à notre hôte, nous allons avoir un succès. Et bien sûr, nous profitons déjà de la grande hospitalité de la Belgique et de la cuisine exceptionnelle de ce pays. Il s'agit d'un mélange fascinant de vieux et de nouveaux. En dehors de la structure, nous voyons l'architecture historique de Bruxelles et la tradition riche de Bruxelles. Et ceci se trouve et existe d'une manière extraordinairement bien adaptée à l'environnement. Et par ailleurs, nous avons l'autre structure qui est dynamique, qui est moderne et qui respecte le pays et son histoire. Nous avons l'honneur d'accueillir le président du Conseil, Monsieur Herman Van Rompuy, qui a accepté un grand défi, guider une nouvelle phase dans l'histoire de l'Union européenne qui a commencé par le traité de Lisbonne. Nous accueillons également le vice-président du Parlement européen, Sylvana Cormerin, et par vidéo, le vice-président de la Commission européenne en charge de l'agenda numérique, Nelly Kroes. Et enfin, et bien sûr, notre hôte, Mark Van Wezemel, président directeur général de l'ORID. La récupération économique de l'Union européenne a commencé par une reconnaissance importante. La moitié de la croissance de productivité des 15 dernières années a été poussée par l'information et par les technologies de la communication. En tant que résultat, la Commission européenne a lancé un agenda, un ordre du jour numérique ambitieux pour produire une croissance économique et disperser les bénéfices de cette ère numérique partout dans la société. Elle a 7 priorités. Un marché unique numérique, une interopérabilité accrue, une confiance et une sécurité plus grande dans l'Internet, un accès à l'Internet plus rapide, plus d'investissements dans la recherche et le développement, des capacités d'apprentissage numérique plus renforcées et une inclusion plus importante, et l'application de technologies de l'information et de la communication pour les défis sociaux tels que le changement climatique et la population en train de devenir plus âgée. L'Internet est central à ce plan avec son interopérabilité, la sécurité et l'inclusion en tant qu'attributs centraux de ce développement. Il est extrêmement important pour l'ICANN de dire que ce sont les valeurs qui font partie de sa mission principale. L'Europe est un acteur clé dans la gouvernance de l'Internet, avec une présence importante dans le comité consultatif gouvernemental. La Commission européenne a fourni le secrétariat du GAC dans le passé et l'Union européenne a été parmi les participants les plus engagés dans le sommet mondial de la société de l'information et du forum de la gouvernance de l'Internet.
Le nom de domaine en Europe. Europe est un leader permanent et innovateur dans la création de noms de domaines. Le premier CCTLD a été créé au Royaume-Uni en 1985 et l'Europe dispose aujourd'hui de 6 sur les 10 bureaux d'enregistrement CCTLD au monde. Un exemple, .de en Allemagne, opéré par Denik, a 9,5 millions de noms enregistrés. .uk, opéré par Nominet pour le Royaume-Uni, a 8,5 millions. .ru en Russie à 2,8 millions de noms et étant à présent son parc à .rf cyrillique IDN CCTLD. .nl aux Pays-Bas opéré par Sydne à 3,9 millions de noms et .eu pour l'Union européenne opéré par le RID encore une fois à 3,5 millions de noms et fait partie des noms de domaines connaissant la plus forte croissance en Union européenne. Dizaines de millions de noms sont enregistrés dans les noms de domaines supérieurs en Europe, la plupart par des entreprises et des citoyens dans des noms de domaines génériques. Avec le programme, le récent programme GTLD, les demandeurs pourront demander des domaines génériques qui leur fourniront des choix non anglais et une concurrence pour .com, .edu, .net, etc. Le domaine catalan 4, par exemple, est le premier domaine de premier niveau qui s'adresse directement à une communauté linguistique différente. .se en Suède a été le premier DNS sec signé, le premier CCTLD, la première zone dans le monde, ce qui a permis d'ouvrir la brèche dans l'enregistrement des noms de domaine. L'Europe est également un leader dans les adresses IP et sous la direction de Axel Pollick, qui a mené ses affaires de façon dynamique, RIPNCC, le bureau d'enregistrement régional d'Internet qui s'occupe de l'Europe et du Moyen-Orient, a innové dans le domaine de l'espace d'adresse. Il a promu l'introduction et le soutien au TCP/IP au sein de l'Europe et c'est pourquoi il porte le nom Réseau IP européen. RIPE a également travaillé en étroite corrélation avec John Postel, l'opérateur original de YANA et le cofondateur d'ICANN afin de décentraliser la distribution des adresses IP. L'artiste surréaliste René Magritte avait une vision unique de l'art et de la vie. Il y a ici à Bruxelles un musée qui accueille la collection la plus étendue de ses œuvres. Et Magritte, comme tout le monde le sait, avait peint l'image d'une pipe et avait inscrit « Ce n'est pas une pipe ». Et il y a une leçon à tirer de ceci. Il faut toujours remettre en compte ce que l'on voit et les suppositions. Bon nombre de gens pensent qu'ils connaissent ICANN. Ils l'étiquettent souvent comme une organisation hautement technique et contrôlée par les États-Unis. Mais ICANN aujourd'hui, au lendemain de l'affirmation des engagements, est une institution multinationale qui travaille pour le bien de tous. Un Internet mondial qui soit stable, sûr et unifié. Et il s'agit d'un travail de différentes parties prenantes qui progressent, qui est reconnu par le monde, pour le monde, et reflète les différents son personnel très international, son conseil d'administration et soutient les organisations ainsi que la nature de plus en plus mondiale de son travail. Notre relation avec le gouvernement américain le reflète bien. Notre coopération étroite se poursuit, mais dans un contexte beaucoup plus large. Nous nous rencontrons aujourd'hui dans une atmosphère de relations internationales en pleine amélioration, dans la mesure où ICANN s'intègre encore plus dans la communauté mondiale. Et le lancement réussi des noms de domaine internationalisés représente un triomphe pour les internautes, en particulier ceux vivant dans les pays participants et pour ICANN. Depuis notre 37e réunion à Nairobi, qui a été couronnée de succès, d'ailleurs le Kenya a été une expérience magnifique, j'ai eu l'honneur de faire partie d'une série de lancements réussis pour l'IDN. J'ai pu visiter l'Égypte, la Russie et les Émirats Arabes Unis afin de célébrer leurs réalisations qui ont bien sûr fortement amélioré les relations dans le réseau croissant des nations qui s'engagent aux côtés d'ICANN. Pour les millions d'internautes, l'introduction des IDN signifie qu'ils seront à même d'accéder à l'Internet entièrement dans leur langue maternelle. Lors de nos visites, nous avons pu constater non seulement la fierté, mais aussi l'association de leur nom de domaine avec l'identité d'un pays, sa culture et son héritage, son patrimoine culturel. En Égypte, en Russie et dans les Émirats arabes, nous avons ressenti cette fierté par rapport à la tradition. Donc depuis le lancement du processus d'accélération des IDN en novembre, ICANN a reçu 31 demandes couvrant 19 langues. 4 ont été déléguées et ceci ne fera que continuer. Il y a d'autres demandes d'IDN qui sont prévues pour cette semaine. En termes d'innovation et de créativité, les IDN constituent un pas en avant pour l'internationalisation de l'Internet et d'ICANN. La prochaine étape cruciale est de rendre ces noms largement disponibles à toute une série de communautés, de clients et d'intérêts d'entreprises autour du monde grâce au nouveau programme générique des noms de domaine de premier niveau. La quatrième version du guide de demande des GTLD a été postée pour recevoir la consultation publique en mai. Ceci confirme la collaboration excellente parmi la communauté ICANN qui travaille et qui fournit son expertise afin de réduire des problèmes qui s'étaient posés. Donc le nouveau modèle inclut des mécanismes de protection des marques déposées, de nouvelles règles pour la protection des noms géographiques, de nouvelles mesures pour mitiger les mauvaises conduites et une transition de registre afin de protéger les nouveaux enregistrés, y compris des dispositions pour la transition d'urgence dans le cas d'une erreur d'enregistrement. Également, nous avons abattu beaucoup de travail dans le média par rapport à une décision non légalement contraignante par un panel indépendant pour reconsidérer les décisions primaires.
Ceci suit une décision non exécutive par le panel indépendant que le conseil devrait reconsidérer sa décision précédente. Ceci avait précédé mon arrivée à l'ICANN, mais j'avais été vraiment impressionnée par la manière transparente dans laquelle l'ICANN regardait cette question. La majorité des gens regardaient sa décision lorsque l'ICANN l'a publiée et par la suite a demandé des commentaires du public. Pendant toute la durée du processus, nous avons reçu des opinions des autres. L'équipe de révision, de transparence et de responsabilité s'est déjà rencontrée dans les bureaux de l'ICANN à Los Angeles. Elle s'est réunie de nouveau ici à Bruxelles et le personnel de l'ICANN soutient ses efforts. Le personnel de l'ICANN, le conseil et la communauté ont construit des archives et un historique important de transparence et de responsabilité. En 2007, un rapport de 68 pages indépendant créé par le Trust One World a conclu que dans l'ensemble, l'ICANN était une organisation très transparente, qu'elle participait, qu'elle partageait une quantité très importante d'informations de par son site web et peut-être et probablement plus que toute autre organisation mondiale. Il aurait été facile de s'asseoir et de dire « bon, ok, ça va », après avoir été recommandé ainsi. Mais nous ne l'avons pas fait. Nous renouvelons constamment notre engagement vers l'ouverture et nous travaillons dans ce sens chaque jour, chaque mois, chaque an. Et même si la poursuite de cet engagement est faite en toute transparence, nous avons un engagement public ouvert dans d'autres domaines que nous pourrions améliorer. Par exemple, nous sommes en train de créer une base de données en ligne qui peut être consultable et qui est exhaustive de toutes les décisions du conseil d'administration de l'ICANN jusqu'à 1998, qui était l'année de la fondation. En faisant ceci dans un wiki, ceci permet un signalement transparent sur les résolutions qui sont mises en œuvre et sur les attentes de la communauté que nous sommes en train de satisfaire. Nous reconnaissons le droit de l'équipe de révision à publier ses opinions, mais nous reconnaissons également le défi auquel ils sont confrontés en tant que groupe qui comprend des parties prenantes du secteur et des parties contractantes dans leur tentative de produire un rapport indépendant et objectif que le conseil d'administration et la communauté peuvent avoir la possibilité de réviser. La recherche d'une plus grande transparence et d'une plus grande responsabilité est un processus permanent. Le défi pour l'ICANN est que quelles que soient nos capacités, même si nous sommes excellents, nous ne serons jamais assez bons. Nous sommes certains que l'équipe de révision trouvera des domaines dans lesquels nous pouvons faire encore plus d'améliorations. Et nous accueillerons bien sûr le rapport pour rendre ICANN aussi transparent et aussi responsable que possible. Nous accueillons l'aide constructive et nous appelons la communauté, nous sollicitons l'aide de la communauté dans cet engagement. La transparence, le débat et la discussion sont les marques de notre communauté et une indication claire que notre modèle multipartie prenante fonctionne. Le modèle multipartie prenante de l'ICANN fonctionne et comment nous le savons ? Parce que grâce à vous et grâce aux autres autour de par le monde, l'Internet fonctionne. L'assistance de l'Europe, le soutien de l'Europe pour le modèle multipartie prenante dans les mois à venir sera plus important que jamais. Il y a ceux qui ne croient pas en ce modèle ou ceux qui cherchent de le changer ou de le dévier vers leur propre bénéfice, pour leur propre bénéfice, aux dépens d'autres parties prenantes. Certains veulent voir tout le secteur privé et les parties prenantes de la société civile éliminées et permettre uniquement au gouvernement de prendre des décisions en limitant l'implication de plusieurs parties qui faciliteraient cette innovation technologique et ce réseau important. Le modèle de multipartie prenante est au cœur de la responsabilité pour chacun qui est préoccupé par l'avenir de l'Internet. Il est interactif, il est transparent et il écoute toutes les voix. L'avenir de ce modèle est une fois de plus discuté par les entités internationales telles que les Nations Unies et l'Union des Télécommunications Internationales. Nous devons faire face au fait que les gouvernements contrôlent ces institutions. Étant donné les propositions sérieuses pour une alternative à notre modèle modèle ascendant et multipartie prenante, nous devons redoubler nos efforts pour le soutenir si nous voulons protéger l'intérêt public mondial. Toutes nos parties prenantes doivent avancer, parler plus haut et défendre notre intérêt commun. Nous avons besoin, bien sûr, de travailler en étroite collaboration avec le comité gouvernemental consultatif, mais nous avons également besoin de l'implication active de toutes les parties prenantes. Nous avons besoin de votre aide à travers tous les moyens que vous avez pour que nous soyons sûrs, pour que nous assurions que tous les gouvernements comprennent ce qui est en question lorsque les questions qui sont débattues à l'Assemblée générale des Nations Unies plus tard cette année. En reconnaissant la dédication, le dévouement incroyable, les efforts bénévoles et les contributions de la communauté, nous cherchons également à faire participer plus de gens dans une grande variété d'opinions. Ceci commence par un dialogue transparent et permanent. Le vice-président de l'Union européenne pour l'agenda numérique, Neil Gross, a parlé de la complaisance de la sécurité de l'Internet. Elle a spécifiquement mentionné la fiabilité du DNS comme quelque chose qui ne doit pas être pris comme quelque chose de donné. Il faut qu'on soit très très clair. L'ICANN n'est pas complaisant. La mission de l'ICANN est d'assurer un Internet sûr, stable, unique, global, mondial. Ceci veut dire qu'il faut reconnaître que le DNS a des faiblesses. Il n'y a pas un système fait par l'homme qui ne soit pas vulnérable. Mais ceci ne veut pas dire que le système est faible. En fait, c'est un système qui est très décentralisé et qui est très puissant sous plusieurs aspects, mais comme toute autre facette de l'Internet, il peut être sous attaque par des malfaiteurs et ayant des intentions malveillantes. Notre hypothèse est que la sécurité peut toujours être améliorée. Comment pouvons-nous faire encore plus? L'Internet et le DNS sont au centre des communications mondiales, de l'industrie, des communautés et de l'économie mondiale. Il s'agit de ressources publiques vitales, cruciales, et nous devons faire, nous sommes d'accord, de notre mieux pour les protéger. Nous avons l'obligation d'identifier proactivement et minutieusement, d'analyser les faiblesses et puis de les aborder de manière agressive. Et c'est ainsi que nous prenons nos obligations de manière sérieuse. L'ICANN consulte les autres parties de la communauté sur les questions de cybersécurité qui ont rapport avec le DNS. Nous avons passé très vigoureusement à des initiatives de sécurité dans le domaine de la sécurité, des initiatives clés, y compris la signature de la racine du DNSSEC qui est actuellement en train d'être mise en place, le dialogue communautaire sur la sécurité, la stabilité et la résilience stratégique, sur les initiatives, sur l'équipe CERT DNS. Tout ceci est en cours. Le progrès sera révisé avec le Conseil et nous rechercherons les lignes directrices de la communauté. Nous avons embauché 8 défis, un pionnier dans le développement du codage et de la sécurité cybernétique. Nous avons demandé au CCNSO d'enquêter auprès de leurs membres concernant des données objectives factuelles relatives aux vulnérabilités. Mes commentaires à Nairobi ont démontré mon engagement personnel puissant envers la garantie de la sécurité, de la stabilité et de l'unité d'un Internet mondial. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que j'ai dit. Et l'ouverture à plusieurs avis est ce qui rend la communauté plus forte. Certains ont demandé pourquoi j'ai dit ça, mais la réponse est très facile, je l'ai dit parce que je le crois. Depuis plus de 20 ans d'expérience dans la gestion du risque, j'ai appris à aborder des systèmes complexes, très complexes, et je sais qu'il est beaucoup plus objectif d'être plus préoccupé du risque que moi. Depuis Nairobi, plusieurs incidents de sécurité ont eu lieu, y compris des anomalies du DNS en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Entre-temps, des rapports de par le monde indiquent des attaques cybernétiques qui sont en train de se générer. Il y a un phénomène mondial croissant qui affecte plusieurs secteurs et nul n'est à l'abri de la menace. L'ICANN ne peut pas résoudre toutes ces questions et tous ces problèmes seuls. Et nous ne voulons pas le faire. Nous devons travailler avec la famille d'organisations, grandes et plus petites, officielles et moins officielles, pour pouvoir tirer parti de la richesse en expertise autour de nous. Au cours des récentes semaines, nous avons contacté un grand nombre de ces parties prenantes pour que nous travaillions ensemble et faire face à ces défis. Le système écosystème, l'écosystème Internet en entier doit être engagé, doit participer. Des données spécifiques sur le nombre des attaques connues, la dégradation ou les défaillances, le niveau d'investissement dans la sécurité cybernétique et les questions y liées approfondiront notre compréhension des risques. Il ne faut pas uniquement parler et converser, mais écouter et prendre des mesures. Et ceci commence par la reconnaissance que ceci est le défi de chacun, et de la communauté, et du monde. Nous dépendons de l'Internet de plus en plus dans nos vies quotidiennes, au travail, à la maison. Et le DNS est essentiel pour un Internet unique, interopérable et fiable. Nul ne demande une expérience dans la vie réelle. Nul ne veut vivre des répercussions, les répercussions d'une défaillance majeure de DNS. Nous n'allons pas être d'accord sur tout, mais il est plus important qu'une action individuelle est que nous nous engagions à aborder, à traiter ces vulnérabilités de manière respectueuse. Dans un esprit de dialogue ouvert et de collaboration, nous allons aujourd'hui, plus tard, avoir le panel sur la vulnérabilité du système de nom de domaine et comment nous pouvons en faire plus d'améliorations. Je vous demande de toute urgence de prendre part activement et d'écouter ce que certains des experts les plus connus du monde ont à dire. En conclusion, l'Internet est une technologie qui est transformative, qui donne la possibilité aux personnes autour du monde qui permet l'innovation, qui facilite le commerce et les transactions et qui permet le flux d'informations libres dans l'intérêt du grand public. En tant que gardien de l'intérêt public de l'Internet, l'ICANN est née similaire à aucune autre organisation. C'est une communauté très vraie, très réelle, mais qui a une mission mondiale, unique, vitale. Et en continuant le renforcement de cette communauté et notre modèle multipartite ascendant, en écoutant les voix diverses et peut-être contradictoires, nous sommes en train d'avancer vers plus d'innovation, plus d'ouverture. Nous sommes en train de d'ouvrir la voie vers l'Internet de l'avenir, donc la force qui unifiera potentiellement les temps modernes. Merci infiniment.
Et à présent, un mot du président de notre conseil, Monsieur Peter Dengate Thrush.
Distinguished guests.
Chers invités, mesdames et messieurs, bonjour. Et bienvenue à ICANN. Merci Rod. Et j'aimerais d'abord souligner le fait que c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ici à Bruxelles. Alors, bienvenue à cette 38e réunion internationale de l'ICANN. Je vous souhaite donc la bienvenue, mais j'accueille également ceux qui nous rejoignent en ligne. L'une de nos missions est de permettre une plus grande accessibilité des participants en ligne. Pour l'ICANN, le fait de se réunir à Bruxelles, c'est comme si on était à la maison, car la première réunion s'est ouverte ici en 2003. Et les premières étapes dans l'internationalisation de l'ICANN. Et c'est en quelque part notre deuxième maison à l'heure de conquérir le monde entier. Le bureau de Bruxelles nous sert de base pour notre connexion avec l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Et ces connexions nous ont permis d'aller aussi loin que nous le sommes allés au cours des dernières années. En particulier, lorsque nous souhaitons obtenir des noms de domaines internationaux. Et c'est quelque chose que nous allons célébrer au cours des prochains jours. Et donc, le mois dernier, nous avons fait un grand pas en avant avec l'Égypte, la Russie et les Émirats arabes unis. Et donc, ces extensions dans le monde arabe ont fait partie d'un monde d'Internet global. ICANN est devenu le premier à utiliser les CCTD et le premier à lancer dans la Fédération russe le CTLD en cyrillique et également en sinhala, en tamoul et en chinois. L'Internet mondial devient vraiment international. Donc, ça prend tout son sens d'en discuter ici à Bruxelles, l'une des capitales les plus internationales, et non pas uniquement parce que nous avons ici nos quartiers généraux, mais aussi parce que Bruxelles accueille bien sûr les sièges de l'Union européenne. Ces organisations ont commencé très bas, mais ont parcouru un grand parcours. Et c'est exactement la façon dont l'Union européenne a commencé. Je suis sûre que certains d'entre vous, surtout ceux qui viennent d'hors de l'Europe, seront surpris de voir que l'Union européenne a été basée sur deux services publics très simples, le charbon et l'acier. Et Schuman a basé son idée sur le charbon et l'acier, mais derrière ceci, il y avait évidemment une idée bien plus profonde, celle d'utiliser ces matières premières pour créer un lien entre les nations. Et donc, créer des liens qui, par le passé, auraient semblé impossibles, et créer des liens entre l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Italie. Et à présent, nous avons 27 nations qui sont liées ensemble de façon économique, mais aussi politique. C'est le bloc commercial le plus fort au monde et il a un PIB de 14,5 milliards d'euros. Il représente 492 milliards de, millions de personnes pardon, et il se base sur des liberté de commerce. Évidemment, il y a énormément de discussions, énormément de désaccords, mais ils y sont quand même parvenus. Le libre commerce, le droit de travailler dans les différents pays, l'euro. Et donc, ça ne s'est pas limité au charbon et à l'acier. Et finalement, c'est un exemple comparable à celui d'ICANN. Nous avons également nos désaccords. Nous sommes parfois, oui, en désaccord, mais nous réalisons des réalisations. Et la tâche est de coordonner la distribution d'adresses, de DNS et des systèmes de serveurs. Ce sont des tâches qui se poursuivent encore aujourd'hui. Et nous poursuivons notre idée qui est de vraiment rendre l'Internet international. Et c'est ce que nous faisons. Je ne dis pas que nous avons terminé, mais nous avons fait d'énormes progrès dans cette direction. Et comme je le disais, les premiers IDN permettent de connecter de nouvelles communautés et de nouvelles façons. Et ICANN, au cours des 12 dernières années, a permis de créer une entité Internet mondiale dirigée par aucune organisation et par aucune entreprise. C'est-à-dire que c'est une initiative qui est dirigée par vous-même dans cette salle et les nombreux volontaires qui travaillent avec nous à l'extérieur de cette salle. Et cette communauté permet de forger les décisions d'ICANN. C'est un processus de décision qui nous permet d'aller de l'avant, de poursuivre la connexion de nouvelles personnes, de nouvelles façons et d'atteindre tout le monde afin de parvenir, comme nous l'avons fait aujourd'hui, à 1,8 milliard de personnes connectées. Si pour l'Union européenne il s'agissait de du charbon et de l'acier, eh bien pour ICANN, on s'est également basé sur des briques de construction et c'est de faire parvenir l'Internet à tout le monde. Donc chaque semaine, de plus en plus de personnes sont connectées de façon interopérable et mondiale. Je vous souhaite donc bonne chance dans votre travail dans les jours à venir. Nous avons besoin de votre contribution que nous valorisons et nous vous remercions pour la générosité avec laquelle vous venez nous rejoindre ici. J'attends donc d'importants progrès la semaine prochaine et des sujets très passionnants tels que les progrès effectués dans la résolution de domaine triple X, l'intégration verticale exactement, l'analyse de la communauté par rapport à notre nouveau guide pratique, également un progrès crucial porte sur la délégation et la redélégation. Nous devrions élire un nouveau président au conseil consultatif et de nombreux sujets encore plus passionnants. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup, merci pour votre travail et bienvenue à Bruxelles.
Merci. I now have the great pleasure of introducing... J'ai l'honneur de présenter Dr. Sylvana Koch-Marin, qui est la vice-présidente du Parlement européen. J'ai des pages de CV ici. Je vais en choisir quelques attributs. C'est une femme politicienne d'un grand talent et qui a fait beaucoup de réalisations. Elle dirige un programme télévé. Elle est mère de 3 enfants. Elle enseigne à l'Université d'Heidelberg, à l'institution United Business de Bruxelles. Elle était la femme de l'année en 2000, selon le magazine Freudin. Et elle va nous parler aujourd'hui de l'Internet en Europe et des discussions sur la gouvernance de l'Internet. Mesdames et messieurs, la vice-présidente, Dr. Sylvana Koch-Marin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse d'être ici. Je suis tout à fait flattée par cette présentation. En Bretagne, vous dites que votre mère aurait été très fière, votre père aurait été fier et votre mère aurait cru chaque mot. Je suis très heureuse d'être ici. Je vous souhaite la bienvenue à Bruxelles, la capitale des institutions européennes, parce qu'à Bruxelles, nous avons toutes ces choses qui se passent et qui définissent les politiques de l'Union européenne. Et je suis honorée de présenter le Parlement européen. Le Parlement européen est assez similaire à Laïkan et Pitera fait des remarques d'introduction concernant ce que l'Union européenne était au départ. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il s'agit d'une machine de législation énorme, mais c'est également le moteur de la paix au sein de l'Europe. De plus en plus de pays veulent se joindre à l'Union européenne. Et maintenant, nous sommes 27 États, et c'est très passionnant de travailler dans cet environnement. Avant de commencer à parler de l'Internet, du Parlement européen, de son rôle concernant la réforme de l'ICANN, en quelques phrases, laissez-moi vous donner une image de ce que le Parlement européen fait. D'abord, nous sommes les représentants d'environ 500 millions de citoyens, ce qui est plus que les États-Unis et la Russie ensemble. Et dans ce Parlement, nous avons besoin de parlementaires. Nous avons plus de 700 et nous représentons, non pas 72, mais 27 pays. Et donc, nous avons plus de 150 partis politiques. Si vous regardez votre Parlement national, vous voyez que 150 partis, c'est absolument compliqué, très compliqué. Et voilà pourquoi nous avons formé des groupes politiques et nous avons moins de 10 groupes politiques qui rassemblent 150 partis politiques. Nous travaillons en 22 langues différentes, ce qui rend ceci un vrai défi, parce que pour chaque législation que nous discutons, chaque document est traduit dans les 22 langues. Pourquoi nous ne pouvons pas travailler en anglais tous? Parce qu'avec la représentation des pays, je veux que ma grand-mère puisse suivre ce qui se passe au Parlement européen et elle parle uniquement l'allemand. Il est très important que les citoyens puissent suivre les travaux de leurs représentants et c'est pour cela que nous avons cette approche nous nous sommes sous-estimés dans ce que nous faisons, je ne me plaignons pas, mais 80% de la législation qui est en place dans les États membres à son origine à Bruxelles. Vous pouvez dire sans exagérer que tout ce que nous faisons en Europe est composé, établi à Bruxelles et puis est mis en place dans les États membres et pas l'inverse. Lorsque vous lisez les médias où il y a un accent sur le capital national. Donc ceci est un aperçu général de ce que nous, au Parlement européen, nous faisons, de quoi il s'agit. Et nous avons affaire avec une grande variété de domaines stratégiques différents, qui passent des questions d'éducation aux affaires sociales, mais également l'Internet, qui joue de plus en plus un rôle de plus en plus important. Vous verrez par la suite un message vidéo de la vice-présidente de la Commission européenne, qui est responsable de l'agenda numérique, et ceci est important, que l'Europe a pris cette démarche, et nous avons un portefeuille croisé d'activités, que tout ce qui a un préfixe numérique a été réuni et nous avons une approche unique. Et au Parlement européen, nous travaillons de manière similaire. Nous avons plusieurs comités, nous avons des improvisations comme à l'ECAN, que nous les appelons IMCO, MV ou etc. Et nous avons affaire avec des questions qui sont importantes pour vous. Et parce qu'elles sont importantes pour vous, elles sont importantes pour nous. Lorsque, dans les années 70, le protocole a été développé, qui avait pensé en ce temps-là que ceci allait révolutionner le monde de la communication et sa gouvernance? Et quelques années plus tard, dans les années 80, environ 1 million de personnes étaient personnellement actifs dans l'Internet, et quelques années plus tard, nous en étions déjà à plus d'un milliard de personnes en ligne. Et jusqu'à 2015, si vous regardez les chiffres des Nations Unies, qui nous donnent comme prévision, la moitié de l'humanité sera connectée, c'est-à-dire plus de 3 milliards de gens. Ce sont des chiffres impressionnants et ceci montre le succès de l'Internet. Mais si vous regardez ces chiffres d'un autre côté, vous pouvez également voir qu'un grand nombre de personnes ne sont pas encore en ligne. Et c'est ce que nous, au Parlement, c'est ce qui nous préoccupe. Et il s'agit donc de la séparation numérique. Donc certaines personnes qui ont pu avancer plus rapidement que d'autres et ont pu communiquer avec les autres en ligne à tout moment, n'importe où, utilisant des données, des textes, des vidéos et l'autre moitié de l'humanité qui est en dehors de ce processus. Ceci est quelque chose qui a beaucoup d'importance pour les politiciens parce que nous représentons tout le peuple. Avec l'Internet maintenant, lorsque nous pouvons regarder une infrastructure qui est d'une part la matérialisation de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée en 48 et je rappelle le droit de l'individu à la liberté d'expression, y compris le droit de recevoir et de partager les informations et les idées à travers n'importe quel moyen. Et nous pouvons voir que ceci a été mentionné en 48 et aujourd'hui une réalité pour beaucoup de gens. Et c'est aussi important pour la politique. L'Internet influence tous les aspects, tous les domaines de notre vie. Il a un impact sur la façon selon laquelle nous vivons, nous travaillons, nous achetons, nous socialisons, nous avons des rapports sociaux, nous nous divertissons. Tous ces sujets complexes, et voilà pourquoi l'approche privée reste l'approche dominante, mais la politique doit également jouer un rôle, parce que si quelque chose ne se passe pas bien dans ce domaine, la plus grande partie des citoyens ne vont pas appeler le médiateur de l'ECAN, mais ils vont appeler le maire ou leur représentant au Parlement et leur dire qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien avec l'Internet. J'ai l'impression que toutes mes données sont en train d'être trafiquées par des malfaiteurs. Et tout ceci a un rapport avec la politique, avec les politiciens. Donc d'un côté, nous avons un pont qui va couvrir et qui va parer à la séparation numérique. Et d'un autre côté, il y a le besoin de développer, d'élaborer des politiques pour construire des infrastructures, éduquer les gens, les personnes, pour que tous puissent jouir de leurs droits à la communication et à l'accès à l'Internet. Tous ces nouveaux défis peuvent aussi être confrontés à de nouveaux problèmes, mais également à de nouvelles chances. Et nous devons regarder divers domaines. Nous devons examiner comment nous pouvons gérer les ressources cruciales de l'Internet. Il y a un besoin de ressources en développement. Ce sont d'autres contraintes auxquelles nous sommes confrontés. Nous devons lutter contre la cybercriminalité. Nous devons promouvoir le multilinguisme. Nous devons protéger les droits de l'homme sur Internet. Les droits intellectuels, la propriété intellectuelle, bien sûr qui ont rapport avec la législation, le cybercrime. Nous devons également introduire de nouvelles applications pour le gouvernement électronique, la santé électronique, et qu'il y ait un marché interne européen qui soit sans obstacle. Il y a beaucoup de domaines divers de politique qui sont interconnectés. Je vais vous donner de quelques phrases qui ont été mentionnées. Bill Gates a dit, par exemple, que l'Internet devient la place centrale du village mondial de demain. Et après avoir dit ça, Eric Sherman a dit que l'Internet était la première chose que l'humanité a construite et que l'humanité ne comprend pas. Et la plus grande expérience en anarchie que nous ayons jamais eue. En tant que politicien qui croit en la démocratie, l'anarchie n'est pas quelque chose à laquelle je veux. Mais c'est important. En tant que communauté, vous avez une série de règles sur lesquelles vous pouvez dépendre, desquelles vous pouvez dépendre. Il y a un respect mutuel. Un respect qui peut être également imposé, appliqué, parce qu'il y a ces règles. Et comme l'Internet est le produit d'un partenariat, il est important que la gestion reflète cette modalité, ce moyen de coopération entre les parties prenantes. Ceci est très crucial. Nous voyons ceci de la perspective européenne. Il est très important que vous soyez sûr que les personnes des divers pays, des divers historiques, soient impliquées dans le processus de législation. Si vous devez réunir des gens qui proviennent de contextes tout à fait différents, il est impossible que les petits groupes qui représentent une seule partie de la société avancent seuls. Il faut les impliquer. Il ne faut pas perdre la majorité des personnes. Il est absolument crucial que le modèle multi-parties prenantes tel que celui de l'ECAN soit préservé, parce que c'est ainsi qu'il reflète la société d'une manière, de la meilleure façon. Donc en tant que preneur de décision, nous avons adopté la semaine dernière, dans notre séance plénière, une résolution sur la gouvernance de l'Internet. Ceci pourrait vous surprendre que nous, au sein du Parlement européen, nous nous occupons de ceci. Mais comme je vous ai dit, l'Internet a à voir avec tous les domaines de la vie. Et donc la façon selon laquelle l'Internet est géré est très importante pour les preneurs de décision. Vous êtes dans un processus de réforme. Nous sommes habitués à ceci. Nous passons notre temps à réviser la façon de travailler ensemble. Et donc maintenant, le Parlement européen a dit, nous allons examiner ce que vous faites étroitement et donner nos conseils ou nos souhaits concernant le processus de réforme, parce que nous pensons qu'il est important que nous coopérions dans ce domaine. Donc nous avons fait attention à la gouvernance de l'Internet, y compris la protection et la garantie des droits fondamentaux et des libertés, de l'accès, de l'utilisation de l'Internet et la vulnérabilité aux attaques cybernétiques. Nous en parlons dans plusieurs comités, vous avez essayé plusieurs ateliers, chacun chacun a sa propre passion. C'est la même chose au Parlement européen. Nous avons des personnes dans le comité des affaires législatives. Ils se préoccupent surtout des questions de confidentialité, de propriété intellectuelle. Nous avons des personnes dans le marché interne, dans le comité de l'industrie, du secteur, pour qu'ils puissent voir les occasions d'entreprise, pour les entreprises, et qui ont rapport avec le numérique et le rôle du numérique. Nous avons donc des approches différentes. Dans le comité concerné par l'environnement, il peut y avoir des soucis concernant ce que nous faisons avec le matériel, l'équipement, les chips, comment nous recyclons certains métaux précieux. Des approches totalement différentes qui sont réunies ensemble dans une résolution que nous avons examinée et votée la semaine dernière. Et pour mettre l'accent sur deux ou trois points de cette résolution, ce dont nous avons parlé et que nous pensons que le secteur privé devrait continuer à jouer son rôle important, il ne devrait pas y avoir de shift vers le gouvernement ou l'administration publique. Il faudrait que ceci reste sous la gestion privée où vous trouvez l'expertise et l'esprit d'entrepreneuriat et l'initiative. Nous voudrions également voir que les principes de transparence, de démocratie et de protection des droits fondamentaux trouvent leur voie, ont leur voie, sont préservés et continuent à être présents dans l'ICANN et selon les normes de l'Union européenne, parce que nous nous concentrons sur ces questions et nous pensons que ce sont les aspects les plus importants avec lesquels nous avons affaire. Nous voudrions également voir un Internet ouvert de fin en fin, d'extrémité en extrémité, et nous voudrions avoir la responsabilité des entités privées qui gèrent les ressources d'Internet sur une base quotidienne et également la protection de l'intégrité de l'Internet mondial et de la liberté de la communication. Et nous voudrions éviter d'avoir des mesures régionales comme les menaces des adresses IP, etc., dans les pays et l'application des IDN dans les pays. Il est très clair que si vous voulez coopérer avec le Parlement européen, et j'espère que nous le ferons de manière plus intense, nous avons beaucoup de choses en commun, nous avons beaucoup de choses à partager. L'introduction et la révision de votre mécanisme de résolution des litiges. Nous pouvons nous donner beaucoup de conseils sur ceci parce que les mécanismes de résolution de litiges sont des choses que nous faisons tous les jours. Vous avez un médiateur, nous aussi. Nous pouvons échanger des expériences dans ce domaine. Nous pensons également qu'il serait important, lorsqu'on parle de financement, qu'il devrait y avoir une structure de financement plus diversifiée pour l'ICANN qui puisse vous donner plus d'indépendance. Et c'est quelque chose que nous avons, que nous essayons de lutter pour aussi dans l'Union européenne. Et nous voudrions voir au plus haut niveau de l'ICANN qu'il y ait une grande représentation de la variété des intérêts et des régions pour qu'il s'agisse vraiment d'une réflexion de cette approche multipartie prenante. Mesdames et messieurs, laissez-moi conclure, permettez-moi de conclure en vous disant que de plusieurs manières, l'ICANN et le Parlement européen ont beaucoup de choses en commun. Nous avons cette abréviation impossible. Nous appelons tout tous par votre premier nom. Nous n'avons pas de processus d'enregistrement prénom, mais nous nous appelons par nos prénoms. Par exemple, j'appelle mon collègue Alexandre, qui a un nom de famille très long, et je peux lui dire tout simplement Alexandre. Nous avons aussi comme motto dans l'Union européenne, peut aussi refléter le motto de l'ICANN et de la communauté Internet mondiale, c'est que nous sommes unis pour le meilleur. Et je pense que c'est très beau et vous donne une idée de la mission dont vous êtes responsable. Et je vous souhaite des journées passionnantes avec beaucoup de débats, beaucoup de réussites. Et je vous remercie pour votre attention.
Thank you very much, Sylvain.
Merci beaucoup, Sylvana. Merci de nous avoir donné la permission de vous appeler par votre prénom.
Parfois, on a des noms de famille assez compliqués, alors j'apprécie beaucoup que vous me permettiez de faire ceci. Alors, merci beaucoup, un dialogue très instructif. La voix du leadership européen est très importante. Et bien sûr, nous sommes particulièrement dépendants du soutien des gouvernements en tant que multipartie prenante. Et donc, l'usage du terme anarchie n'est pas forcément adéquat. Nous préférons choisir le terme de multiplicité des choix offerts aux internautes. Nous apprécions tous la vitalité qui en découle. Et notre mission n'est pas de l'en empêcher, mais de permettre que tous les cadres de coopération et d'interopérabilité soient installés. Merci d'avoir cité votre récente résolution de litige sur Internet. Merci beaucoup pour vos bons souhaits et votre attention également en tant que parlementaire. Votre contribution est très appréciée. Merci d'avoir également distingué l'un des problèmes cruciaux, clés de la réussite d'ICANN, c'est le rôle du secteur privé dans ce modèle. Donc ce que nous entendons de vous ce matin démontre clairement que vos principes clés et les nôtres sont les mêmes. Et je pense que nous explorerons au cours des mois suivants des façons de mieux travailler avec le Parlement européen. Alors, merci encore. Applaudissons Sylvana. Merci, Sylvana. Je suis très heureux de vous présenter Neelie Kroes, qui est le vice-président de la Commission européenne et en charge de l'agenda numérique. Elle nous rejoindra de façon numérique. Elle vient des Pays-Bas où elle a commencé sa vie dans les affaires, où elle a travaillé dans l'entreprise de transport familial. Elle comprend donc bien les notions économiques. Et ensuite, elle a enseigné en tant que professeure à l'université dans laquelle elle avait étudié. Elle a fait partie du comité de soutien de Rotterdam et ensuite du Parlement hollandais de 1982-1989. Elle a été le ministre des Transports et des Télécoms aux Pays-Bas. Elle a été la présidente de l'université et a été membre de nombreux conseils d'administration tels que celui de Volvo. Et elle s'est chargée des questions de concurrence. Elle travaille également comme bénévole, en particulier auprès de la Fondation pour les enfants de Nelson Mandela et le Fonds mondial contre le cancer. Alors, permettez-moi d'accueillir la commissaire Neelie Kroes. Bonjour à tous. Je sais que beaucoup d'entre vous ont travaillé dur déjà ce week-end. Mais il n'est pas trop tard pour vous souhaiter la bienvenue à Bruxelles. Vous êtes le cœur de la communauté des internautes et vous avez franchi un grand pas depuis le début d'ICANN jusqu'à aujourd'hui. Vous avez permis de rassembler des centaines de parties prenantes. Et comme à chaque fois qu'une communauté se forme, il est toujours important de se demander si l'organisation et ses méthodes de travail sont sur la bonne voie. Certaines communautés se développent en petits clubs privés au fil des années et je suis heureuse de constater que ce n'est pas le cas de l'ICANN. Vous allez vous rencontrer cette semaine au cours d'un événement qui est même ouvert au public et je pense que l'ouverture avec le plus grand public, il s'agit de parties prenantes du secteur privé ou public, vous permet de trouver de meilleures façons afin de renforcer vos structures. La même chose s'applique d'ailleurs au Forum pour la gouvernance de l'Internet, une approche multipartie prenante qui a été couronnée de succès et doit se poursuivre afin de servir les objectifs poursuivis par l'agenda de Tunis. Nous devons garantir que les modifications techniques soit transformé en un bien public plutôt que dans privé le grand public. Et les autorités publiques telles que la mienne ont le devoir de conseiller Lincoln sur la nature de l'intérêt public. Mais les droits de l'homme et la liberté d'expression sont parfois menacées et donc d'autres acteurs doivent intervenir. Par exemple, les initiatives mondiales et la position prise par Hillary Clinton en limitant la liberté d'expression par rapport à certains fournisseurs d'Internet. Je suis en faveur de ce type d'attitude car il s'agit d'un devoir collectif pour toutes les parties prenantes de l'Internet, qu'elles soient du secteur privé ou public. Nous devons garantir que les décisions soient transparentes, responsables et efficaces. Et cette garantie doit également porter sur le respect du bien commun. De nos jours, une organisation qui a des responsabilités mondiales doit forcément être transparente et responsable. Et de la même façon que l'Union européenne a accueilli l'affirmation des engagements l'année dernière, je suis certaine que l'expiration du contrat l'année prochaine sera convertie en une opportunité pour une meilleure coopération internationale dans l'intérêt du bien public. Mais ne vous méprenez pas. L'Internet mondial fonctionne bien aujourd'hui. Et j'aimerais dire, s'il n'est pas cassé, ne le réparons pas. Nous avons tous intérêt à ce que cette plateforme merveilleuse pour l'innovation, l'entrepreneuriat et la liberté d'expression travaille parfaitement bien du point de vue technique. C'est une aventure fantastique qui doit poursuivre son épanouissement. Ceci signifie est-il cependant que, par exemple, pour les questions de sécurité et de résilience, nous devons combattre la criminalité sur Internet. Et le secteur privé comme public ont des obligations communes d'agir. Et cette approche doit être menée de façon conjointe avec la garantie que l'Internet lui-même n'est pas vulnérable à des dysfonctionnements de grande échelle, qu'il s'agisse du résultat d'un accident ou d'une attaque volontaire. Une autre question dont on traitera cette semaine est l'expansion du nombre de noms de premier niveau génériques pour les domaines. Certaines actions sont probablement irréversibles et c'est la raison pour laquelle elles doivent être réfléchies minutieusement et ne pas être décidées sur la base d'un intérêt immédiat, commercial. Et bien sûr, ceci constituera un grand défi. Quelque part, il s'agira d'un test sur les capacités de gouvernance de l'ICANN et je recommande au conseil d'administration, comme ils l'ont déjà fait, de émettre des principes. Et ils ont commencé à faire ceci en 2007. Et l'IDN fait partie des autres grands sujets, car il est essentiel que l'Internet reflète la diversité de nos langues. Vous savez sûrement que le nom de domaine europe.eu est très réussi et je sais que la transcription en caractère grec fera également partie des noms de domaines de premier niveau. Il y a toute une série d'autres questions qui doivent être citées, mais je n'ai pas le temps de le faire à présent. Je ne veux pas prendre votre temps. En tout cas, je serai très heureuse de vous voir pour certains d'entre vous lors du dîner de gala. Et vous avez mes meilleurs souhaits pour vos discussions de cette semaine et pouvez compter sur la contribution positive de l'Union européenne dans cet effort.
Merci infiniment. Vice-présidente Nelly Cruz, et c'est mon honneur d'introduire Mark Van Wezemel, le directeur de REIT. Mais toutes mes félicitations pour toute l'équipe, pour la préparation que vous avez faite, Mark, à une maîtrise de Lisieux, d'Anvers, en collaboration avec l'université de Northwestern et un diplômé de Ghent. il a géré des CCTLD, il était le directeur de d'autres BE en Belgique pendant plus de 10 ans, et puis le directeur général de Point EU en 2003. Nous voudrions que nous accueillions et pour remercier également Marc Van Wezemel. Merci, Monsieur le Président, pour cette présentation. C'est un très grand honneur pour le RID d'être votre hôte, l'hôte de la conférence de la 38e conférence de l'ICANN. Mesdames et messieurs, chers participants, si vous pouvez rêver et ne pas devenir les esclaves de votre rêve, cette phrase de Rudyard Kipling a dû être à l'origine de ce qui, entre-temps, est devenu l'Union européenne. Mais les fondements ont été placés en 1957 avec le traité de Rome. Comme M. Dagadrach a très bien décrit, ceci a commencé avec 6 pays. Et aujourd'hui, l'Union européenne comprend 27 membres qui parlent 23 langues officielles. Environ 50 ans plus tard, une autre étape importante était l'introduction de l'identification unique .EUI, donc l'identité européenne en ligne. Ceci a été possible dans le cadre de l'initiative de européenne qui ont permis l'introduction de l'extension .EU en avril 2006. Depuis, chaque citoyen européen, entité publique, organisation ou entreprise ayant une présence européenne peut avoir un nom de domaine .eu. Aujourd'hui, plus de 3,2 millions de domaines .eu sont enregistrés. L'innovation et la qualité, ainsi que nos efforts passionnés pour un environnement sûr, ont été les forces motrices de notre évolution. Nous sommes fiers de voir que certaines des procédures que nous avons introduites au cours de la phase Sunrise ont été développées par d'autres et sont devenues aujourd'hui les meilleures pratiques dans la communauté, au sein de la communauté TLD. Comme l'un des TLD les plus jeunes, les plus récents, EURID est honoré de vous recevoir tous, de vous accueillir tous à la conférence, à la 38e conférence de l'ICANN dans notre si belle ville au cœur de l'Europe. Les conférences de l'ICANN sont l'occasion unique de rencontrer des gens, des personnes avec des contextes différents, politiques, sociaux, professionnels. En tant que motto de l'Union européenne, nous sommes tous unis dans la diversité. Ceci a également été mentionné par la vice-présidente Coq-Marine. Est-ce que cet aspect multipartie prenante et multiculturel qui rend une conférence ICANN une expérience très spéciale, nous sommes vraiment fiers de faire partie de cette communauté? L'Internet est notre génération et l'infrastructure de notre génération, comme les routes et les chemins de fer, les avions, l'électricité, les téléphones étaient les créations des générations précédentes. De plus en plus de services sont en train de se déplacer vers une plateforme en ligne et ceci est devenu le fondement de notre économie et de notre démocratie. Les enfants à l'école font leurs devoirs de plus en plus par le biais de l'Internet. Pour vous parler d'un seul exemple, c'est pour cela très important de faire et de préserver et de garder l'Internet accessible à tous. Comme ceci, en étant un acteur important, je me rends compte que ce défi est passionnant, mais cette autorité vient également, s'accompagne également par des responsabilités très importantes. Nous sommes ici cette semaine pour discuter et décider de l'avenir de l'Internet. Peut-être le faire avancer un peu plus, mais de toute façon, l'avancée selon des pas, par des pas qui vont avoir un impact sur l'avenir des générations futures. Par exemple, comme les nouveaux GTLD, l'utilisation de scripts qui ne sont pas latins, des aspects de sécurité, tout ceci aura une influence sur des millions de personnes. Eurid est prête à prendre, à assumer ses responsabilités, à jouer son rôle. Et à la fin de l'année dernière, par exemple, nous avons introduit les IDN, rendant possible l'enregistrement de noms de domaine avec des caractères des 22 langues officielles de l'Union européenne. La semaine dernière, nous avons déployé les DNSSEC en suivant les standards, les dernières normes, sans mettre en danger notre objet dynamique. Le point... La zone a été signée et certains bureaux d'enregistrement ont commencé à signer eux-mêmes. Nous attendons avec impatience le 15 juillet pour mettre nos clés dans la racine et achever, réaliser le déploiement. Mais la sécurité ne s'arrête pas avec les DNSSEC. Le RID a travaillé étroitement avec les bureaux d'enregistrement et les entités chargées de l'application de la loi pour contribuer à la lutte contre les divers aspects de cybercriminalité. Nous attendons avec impatience la discussion sur ces sujets qui aura lieu cette semaine dans le cadre d'ateliers différents. Et nous allons apprendre de l'expérience de nos collègues, tirer parti de leur expérience. Et l'Internet s'étend de plus en plus rapidement, continue à croître en nombre d'internautes. Ceci donc crée de nouveaux défis, comme nous en faisons l'expérience tous les jours. La robustesse, la sécurité, la performance sont tous des facteurs qui ont besoin de notre attention continue. Ils vont exiger des investissements considérables, mais également une collaboration entre les parties prenantes multiples. Il y a plusieurs chemins inconnus qui n'ont jamais été empruntés. La coopération entre des parties différentes va être nécessaire pour pouvoir parer et ou faire relever tous les défis que nous allons rencontrer. Mais souvenez-vous, comme un sage a dit, les obstacles sont ce que vous voyez lorsque vous ne vous concentrez pas sur votre objectif. Et les objectifs sont clairs. L'objectif est clair. Un Internet ouvert, stable, accessible, disponible à tous. La transparence, la responsabilité devraient être notre guide, nos guides sur ce chemin, dans ce chemin, ou le long de ce chemin. Pour conclure, je voudrais remercier toutes ces personnes qui ont littéralement travaillé nuit et jour pour rendre cette rencontre une réalité, un succès. Merci pour les Cannes, pour cette collaboration flexible dans ce projet. Je remercie le personnel de l'ERID, et spécialement Giovanni Sapia, qui a été la personne derrière la scène, ou bien qui faisait le tour du square, donc c'est un jeu de mots avec le nom du bâtiment. Merci Giovanni pour toutes les fournitures, pour expliquer tous les jours que le monde, le mot immédiatement, a un seul sens. En tant qu'hôte de cette conférence, nous sommes très heureux de voir le grand nombre de participants. Cette conférence est déjà une marque comme celle selon laquelle c'est l'une des conférences qui a été la plus, qui a vu le plus grand nombre de participants dans l'histoire de l'ECAN. Ce sera la conférence, en tout cas, avec les sacs les plus lourds qu'on ait jamais reçus. Les sacs à dos, donc. J'espère que cette réunion sera aussi mentionnée pour les décisions positives qui seront prises cette semaine. Le monde a besoin de progresser, d'avancer, et pour avancer, nous avons besoin de décisions. Il y aura bien sûr les obstacles, il y aura des problèmes, mais en tant que, comme l'a dit un grand Européen, le succès est de passer d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Mesdames et messieurs, je vous souhaite beaucoup d'enthousiasme, une rencontre très réussie et un séjour très agréable à Bruxelles.
Merci beaucoup, Marc. Merci. Nous accueillons maintenant l'un de nos invités d'honneur qui sera bientôt parmi nous, mais nous allons donc introduire le rapport du président. Donc je commencerai avec ça et ensuite notre monsieur Brandt me suivra. Alors, j'attends les transparents. Premièrement, j'aimerais vous présenter des nouveaux membres de notre personnel, très talentueux. Nous avons beaucoup de chance de les accueillir à IACAN. Premièrement, Elise Guéric, notre nouvelle vice-présidente pour IANA. Elise, est-ce que vous pouvez lever la main ou vous levez? Où êtes-vous? Elise. Auteur de nombreuses RFC, elle a travaillé au sein du réseau JANEPA et de nombreux groupes de travail, et ceci depuis de nombreuses années. Donc une gérante qui est extrêmement talentueuse, qui a également des qualités techniques. Et à présent, nous allons accueillir le docteur Whit Diffie, vice-président pour la sécurité d'information et la cryptographie. Il a fait ses études, son doctorat, pardon, à MIT et a mis en place le système de l'encryptage moderne à clé, c'est-à-dire les bases de l'Internet moderne avec des certificats numériques et l'évolution vers le DNSSEC. Au cours de 20 ans, il a travaillé auprès des microsystèmes au sein d'une équipe de consultants conseiller auprès de l'officier principal de sécurité. Merci de vous lever. Nous sommes également heureux de vous dire que, évidemment, il se trouve à Silicon Valley, donc nous avons énormément de talent dans l'industrie. Et très brièvement, j'aimerais rappeler l'affirmation des engagements et les étapes en termes de responsabilité et de transparence. Plus tôt, lors de ma présentation, j'ai fait allusion au rapport de 2007 qui a qualifié l'ICAN d'une organisation très transparente. C'est-à-dire une organisation qui a analysé de nombreuses autres organisations avec les mêmes critères. Ceci fait partie de ses activités et je me suis engagée de façon très directe et personnelle. J'ai 9 ans d'expérience dans l'histoire et les politiques de ICAN. Et Denise Michel est la conseillère auprès du PDG, c'est-à-dire qu'immédiatement dans mon bureau, nous nous concentrons sur ces engagements. Nous menons également des dialogues internes, des présentations, des débats sur la nature de l'affirmation des engagements dans chacun des groupes de travail. Chacun des membres de notre personnel a dû présenter, expliquer et défendre un paragraphe dans l'affirmation des engagements et expliquer comment ceci s'appliquait à leur travail, à leur groupe et comment ceci pourrait s'appliquer à d'autres domaines d'ICAN. Donc voici ce que nous faisons au sein de l'organisation du personnel. Nous travaillons également sur un inventaire qui fait partie de ce processus continu d'amélioration. Et en termes de responsabilité, l'une des questions principales est qu'a-t-il été fait afin de respecter les résolutions du Conseil? Comment certaines de ces résolutions ont été incluses dans le plan stratégique et dans le plan d'opération? Combien d'entre elles n'ont pas été incluses? Alors, ce que Denis réalise, c'est un effort afin de s'assurer que toutes les résolutions, c'est-à-dire plus de 1000 résolutions du bureau, font partie d'un wiki. Et en 2009, nous avons créé des liens et des résolutions qui sont ouvertes à la consultation publique. Donc si vous avez des idées par rapport à des ressources supplémentaires, eh bien vous pouvez les poster sur l'espace de commentaires sur le wiki et vous pouvez décider de poser des questions. Ceci servira de base. Donc premièrement, nous créons une base documentaire historique. Nous créons des suivis sur les résolutions et en même temps, nous lui faisons prendre corps dans l'organisation. Et ceci consiste parfois en le changement de nos mesures. Parfois, nous devons reconnaître que nous avons besoin de financement, de planification stratégique, mais c'est la chose à laquelle nous pensons à l'heure de mettre en œuvre ces résolutions, mais nous pouvons faire bien davantage et nous avons besoin de votre aide pour améliorer nos informations dans ce wiki. Nous avons également élaboré un module de formation du personnel. Alors, comme vous le savez, cette équipe de révision sur la protection de la sécurité DNS, la stabilité et la résilience a été mise en œuvre et je serai le co-sélecteur pour cette équipe de révision. Nous aurons également une politique qui est le who is et je vous demande d'envoyer votre candidature d'ici le 15 juillet. Il y aura également une quatrième révision sur la promotion de la concurrence, la confiance des consommateurs et le choix du consommateur. Donc, à cette étape, j'aimerais passer la parole à mon collègue exceptionnel, qui va d'ailleurs beaucoup me manquer et duquel j'ai tant appris et qui a apporté une telle contribution en termes de leadership afin de faire avancer les opérations de cette entreprise, Doug Brandt.
Actually, we have a diversion.
Pardon, nous avons un petit changement de programme. Nous avons un autre invité d'honneur que je suis très heureux de vous présenter, Monsieur Herman Van Rompuy, le président du Conseil européen. Il a un diplôme de philosophie et d'économie appliquée. Il a été conseiller au cabinet du ministère des Finances, directeur du Centre pour les études de politique économique et sociale et enseigne à l'université de Anvers et de Bruxelles. Il a commencé sa carrière politique en 1983 comme membre du Parti chrétien populaire et il prend la parole à la Chambre des représentants. Il a été Premier ministre et c'est le premier ministre représentant du Conseil européen depuis 2009. Merci d'accueillir Herman Van Rompuy.
Ladies and gentlemen.
Mesdames et messieurs, je suis très heureux de pouvoir vous appeler, vous accueillir à cette première conférence de l'ECAN qui a lieu à Bruxelles, non seulement la capitale de l'Europe, mais également ma ville natale. Vous avez un ordre du jour très intéressant et j'espère que vous allez pouvoir avancer, continuer avec les développements que l'ECAN a démarré. D'abord, je voudrais vous féliciter pour votre travail sur les noms de domaines internationalisés et sur le lancement en ligne du premier nom de domaine non latin. C'est un signe pour le monde non occidental que l'adresse arabe peut être utilisée. Les technologies modernes, la communication méritent d'être mondialisées. Sur cette note heureuse, je voudrais parler de certains points importants pour l'Union européenne et pour tous. Vous savez que l'Union européenne a un intérêt actif dans des problématiques liées à la gestion de l'Internet depuis très tôt. L'Union européenne était impliquée dans l'établissement de l'ICANN en 1998 et a suivi les choses de manière étroite depuis. Au cours du sommet mondial en 2003 et 2005 sur la société de l'information, l'Union européenne était très active en arrivant à des conclusions qui ont été incluses dans l'agenda de Tunis et les engagements de Tunis. L'Internet s'est aujourd'hui développé en une ressource mondiale, publique. Il est d'importance cruciale pour nos économies partout dans le monde de continuer à nous développer. Et les questions de gestion de ces ressources et de sauvegarde de ces ressources deviennent de plus en plus importantes. Il est de notre responsabilité partagée, la responsabilité partagée de toutes les parties prenantes, de nous assurer que tous les cadres de la gouvernance sur l'Internet continueront à être mis en place selon les principes approuvés. Les gouvernements font partie des parties prenantes qui partagent cette responsabilité. Donc les gouvernements également des 27 États membres de l'Union européenne. Et vous êtes au courant que ces 27 gouvernements sont représentés au Conseil de l'Union européenne, au niveau ministériel et au Conseil européen où je suis, au niveau donc des chefs d'État et des gouvernements. La responsabilité et la transparence, nos principes fondamentaux pour toute structure de gouvernance. C'est pour cela que notre Conseil de ministres a accueilli l'affirmation d'engagement entre l'ICANN et le ministère de commerce des États-Unis en septembre de l'année dernière comme étant une approche très importante dans la bonne direction. C'est pour cela que nous accueillons également l'engagement clair de la CAN envers l'amélioration de la transparence, de la responsabilité et de l'action dans l'intérêt public pour le bénéfice de tous les internautes de par le monde avec l'engagement et la participation de toutes les parties prenantes. Ceci va augmenter le rôle des gouvernement et le rôle du comité consultatif gouvernemental qui conseille l'ICANN sur ces sujets. Je sais que dans les quatre domaines ont été définis et je suis heureux de noter que le travail sur le premier cadre, donc sur la responsabilité et la transparence de l'ICANN, progressent, avancent et seront discutés lors de vos réunions dans les journées à venir. Plus généralement, l'Union européenne a souligné que la croissance de l'internationalisation de l'Internet est un objectif fondamental de politique publique. Nous avons la vision d'un Internet ouvert, robuste, fiable, mondial, accessible. Et c'est une vision que nous nous efforçons et que nous luttons pour appliquer. Il est clair que le système des noms de domaine joue un rôle clé dans ce sens. Il faut donc poursuivre l'internationalisation de la coordination. Je vais prendre comme exemple le nom de domaine .eu qui a été lancé en 2002. Au début de juin de cette année, il avait plus de 3,2 millions d'enregistrements. Il s'agit de code de pays, du quatrième code de pays de l'Europe et le neuvième au niveau mondial. .eu, donc le .eu, a aidé les écoles et les autres organisations à créer des contacts avec des partenaires dans d'autres pays européens. Il a également facilité aux petites et moyennes entreprises d'étendre leur envergure, leur portée sur le marché. Et également pour les personnes qui souhaitent avoir des discussions sous les auspices de l'étendard européen. Il y a un grand intérêt dehors, à l'extérieur, pour les particuliers et les entreprises qui veulent montrer qu'elles font partie de l'Union européenne. Il s'agit d'une évolution très importante, surtout par ces temps qui ne sont pas très faciles pour l'Union européenne. Il est important de nous souvenir que si l'Union européenne est moins populaire, au moins .eu peut être populaire et à la mode. J'ai dit tout à l'heure que toutes nos parties prenantes avaient des responsabilités dans la garantie du cadre de gouvernance de l'Internet et que ce cadre va continuer à se développer selon les lignes et les principes qui ont été convenus au sommet mondial. Dans ce contexte, je voudrais souligner l'importance du forum de gouvernance sur la gouvernance de l'Internet. C'est une plateforme unique de la gouvernance de l'Internet à ce niveau. Et jusqu'à maintenant, il a démontré la valeur d'une approche non exclusive, multipartie prenante. L'Union européenne soutient la poursuite de ce forum et son caractère ascendant, inclusif. Je vais conclure par quelques remarques, quelques commentaires sur une problématique liée à la sécurité et la gouvernance de l'Internet. Je pense qu'il est d'une importance vitale pour nos sociétés de trouver des moyens et des modes de lutter et de réduire la criminalité, la cybercriminalité. La confiance en l'Internet est fondamentale pour pouvoir avoir un fonctionnement réussi. Il est fondamental que les utilisateurs, qu'ils soient des particuliers ou des organisations, soient sûrs que leurs informations sont sûres lorsqu'elles passent sur l'Internet et qu'ils ne seront pas confrontés à des attaques lorsqu'ils utilisent l'Internet. L'usurpation d'identité sont de plus en plus usuelles. Les attaques deviennent de plus en plus sophistiquées. Ces attaques ne sont pas uniquement motivées par des objectifs financiers, mais également politiques. Nous devons renforcer notre résilience, notre faculté de récupération contre ces attaques. Apprendre comment prévoir ces défaillances, ce ne sont pas des problèmes uniquement nationaux. Ce ne sont pas des problèmes qui touchent uniquement l'Europe. L'Union européenne aborde la problématique dans la mesure du possible, mais il s'agit de problèmes d'échelle mondiale qui doivent être traités et abordés à une échelle mondiale. Au bout du compte, l'interconnectivité de notre monde est en jeu. Je suis sûre que vous êtes au courant de ces questions et de ces défis. On pourrait en dire plus, mais comme Robert Greenlee de l'ETNT a dit, beaucoup de tentatives de communication sont éliminées en disant trop. Donc, je vais conclure ici et vous souhaiter une rencontre très très utile et des conversations infiniment fructueuses. Merci.
Thank you very much, Mr. President.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette présentation exceptionnelle. Et encore une fois, notre Chief Operating Officer va poursuivre le rapport. Je vous remercie. Bonjour à tous. Eh bien, je suis le dernier à vous accueillir à Bruxelles et j'aimerais remercier nos hôtes d'avoir organisé une réunion aussi complexe et merveilleuse. Alors, l'une des qualités que j'ai, c'est que je suis courageux dans ces présentations et donc nous essaierons de vous donner un bon aperçu du travail exceptionnel qui va être réalisé au cours de cette semaine. Alors, nous avons parlé des noms de domaines de réalisation et 31 demandes de noms de domaines ont été déjà introduites. Il y a encore beaucoup de travail à abattre en ce qui concerne l'acquisition des noms de domaines, etc. Et mercredi, nous traiterons de ce sujet. J'entends que bon nombre de personnes pensent qu'ils se musclent en soulevant les volumes de nouvelles versions du guide de candidature. Alors évidemment, ceci constituera un sujet de discussion cette semaine et je pense que c'est un bon exemple de la progression d'ICANN pour s'exposer à la consultation du public. Et donc nous avons préparé donc d'une part un nouveau budget pour le GTLD. Donc nous en parlons depuis déjà 2 ans et ce sera la première occasion pour la communauté d'être consultée sur le sujet. Et au-delà de la date de publication du document, Nous savons qu'il y a une étude économique pour les GTLD. Donc ce ne sera pas retenu pour cette réunion, mais sera discuté et passera par une phase consultative avant de terminer le processus. Je pense que le succès clé que nous avons remporté avec ce nouveau processus GTLD, c'est la façon dont nous traitons notre personnel, d'où nous reconnaissons l'importance de notre personnel et surtout le niveau de soutien que nous avons de la part des communautés. Par exemple, l'IRTT a mis en œuvre de nombreuses activités avec ses groupes sur l'accès, HSTLD, etc. Je pense que, comme le ministre l'a dit auparavant, nous pouvons utiliser tous ces différents acronymes. Nous travaillons sur le GTLD, sur les noms de domaines et le soutien aux demandes de candidature. Donc évidemment, il s'agit d'un travail considérable, mais il vaut la peine de se pencher là-dessus, de voir les progrès qui ont été réalisés par la communauté en termes de GTLD. ICANN a également réalisé de nombreux progrès dans de nombreuses questions de sécurité et de stabilité, en particulier des publications liées à celle de Rhodes. Le travail est réalisé suite au deuxième symposium à Kyoto sur la sécurité. Il est difficile d'évaluer notre travail si nous ne comprenons pas la nature d'un système réussi. Donc c'est évidemment une publication importante. Nous avons eu les premières sessions de formation à Haïti. Nous avons travaillé de façon collaborative et nous évoquerons ce sujet à 8 heures jeudi matin pour les Lefto. Les racines de DNSSEC ont été discutés aujourd'hui et évidemment il y a l'évaluation sur les risques et les vulnérabilités qui commencera immédiatement après cette réunion et je pense qu'une autre séance très intéressante à laquelle je vous recommande de participer ce sont les la séance sur les problèmes liés au DNS et les abus. Et je pense que du point de vue de la mise en œuvre, il s'est agi d'une collaboration réussie entre ICANN et TIA. Mais évidemment, ça va bien plus loin que ça. Ces comités de DNSSEC se poursuivent depuis déjà un an. Et ce qui est important, c'est l'affirmation qui a été faite aujourd'hui qu'ils permettent d'améliorer la situation pour tous ceux qui font partie de ce monde, y compris les distributeurs. Et la semaine dernière, j'ai eu le privilège d'assister à la première cérémonie pour générer la clé de signature. Et ceux qui étaient présents ont pu constater que c'était un moment émouvant pour la mise en œuvre de cette première clé. Et il s'est agi de la naissance d'un produit attendu depuis longtemps, un produit clé dans la sécurité d'Internet. C'était très émouvant. En ce qui concerne Yana, il y a deux éléments importants à noter. À chaque fois que nous nous réunissons, l'IPv4 est en cours. Cette semaine, nous allons parler des bureaux d'enregistrement sur Internet. L'IPv4 et l'IPv6, la transition, font également partie des débats et nous avons entendu de nombreuses informations sur les progrès, mais il reste encore beaucoup de travail à abattre. ICANN prend cette tâche extrêmement au sérieux. Nous sommes très heureux de travailler dans ce domaine. Et ce qui est important, c'est que nous travaillons de façon transparente et c'est la nature de notre programme d'excellence. En ce qui concerne le respect des contrats, eh bien, ce sera toujours un sujet important. Nous devons toujours nous améliorer avec le respect des règles mises en œuvre par la communauté. Nous devons les mettre en œuvre et je faisais partie de la réunion de l'association des marques déposées et nous avions reçu de nombreuses critiques, mais nous avons fait d'excellents progrès. Cette semaine, nous discuterons également du problème de la précision du WHOIS. On a parlé également de la gouvernance Internet. Il y aura un forum qui sera organisé jeudi. Et comme plusieurs d'entre vous l'auront remarqué, ICANN croit parfaitement entre des discussions multi-parties prenantes, transparentes. Est-ce qu'il y a des membres d'ICANN ici dans la salle? S'il vous plaît, levez-vous. Des boursiers d'ICANN. Est-ce que vous pouvez vous lever? Merci. C'est particulier pour ICANN. C'est la 10e promotion de boursier. Et ceci nous a permis de renforcer les capacités. 1032 demandes de candidature. Et bon nombre de ces participants font à présent partie de la communauté ICANN, ce qui était bien sûr l'objectif. Les questions CCTLD, eh bien, il y a évidemment beaucoup de travail à achever là-dessus. Il faut savoir que le CCNSO ne cesse de croître, de nouveaux membres cette année, et la Somalie en fait maintenant partie. GTLD, eh bien, c'est un sujet complet. Hier, nous sommes posé la question. Nous ne savons pas quelle orientation les GNSO prennent. Il y a encore beaucoup de travail à abattre. Une discussion le jeudi 24 aura lieu sur les informations d'enregistrement et d'autres de ces questions et la promotion de la confiance des clients. C'est un sujet qui fera partie de la discussion. Également, de nombreuses discussions sur l'intégration verticale, en particulier cet après-midi, une discussion importante sur l'accréditation qui verra de nombreuses multiparties prenantes. Donc, pour ceux qui sont nouveaux ici, je vous recommande de participer à cette séance. Et enfin, l'année fiscale 2011... Il y aura une séance là-dessus. Je ne pense pas l'avoir écrit sur les transparents, mais je vous recommande d'y participer. Le budget de l'année fiscale s'élèvera à environ 15 millions de dollars. Et nous avons un budget, un document de 88 pages en ligne. Et le but d'ICANN est de le rendre de plus en plus, de le transformer en une activité vraiment de la communauté. Et ce dont nous discuterons activement lors de cette réunion, ce sera les façons de faire participer la communauté davantage. Pour l'instant, il s'agit d'un processus de 7 mois, mais nous voudrons faire participer la communauté à cet agenda le plus tôt possible. Ce sera le sujet de la discussion dès jeudi. Et lorsque l'on consulte les finances d'ICANN, on peut constater que nous sommes très robustes, comme prévu par le bureau. Donc voici le tour de force des activités de cette semaine, donc évidemment fascinant et impressionnant également. Et je pense que je vous dirai encore une fois, je vous souhaiterai la bienvenue à Bruxelles et à 11h15, démarrage de la prochaine séance et nous aurons une semaine merveilleuse. Merci.
Ladies and gentlemen, would you be kind enough to please take your headsets back to the tables?
Mesdames et messieurs, ayez la gentillesse de ramener vos casques.